Change mon cœur, Seigneur. Votre méditation quotidienne.
Bonjour amis auditeurs, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que par la grâce de Dieu, vous vous portez bien. Quel que soit l'heure où vous êtes, quel que soit ce que vous faites, puisse cette méditation vous faire du bien aujourd'hui. Ce sera notre deuxième méditation, extrait du livre « Si mon peuple prie » de Randy Maxwell. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Je suis à peu près sûr que vous connaissez tous ce verset. Maintenant, au fil de nos méditations, nous allons décortiquer ce verset mot à mot, afin de pouvoir en extraire vraiment l'essence pour nous aujourd'hui. Alors, pour cette méditation du jour, nous entrons dans le chapitre « Si », le premier mot de ce verset. Imaginez. Imaginez avec moi pendant quelques instants combien le cours de la vie et de l'histoire aurait été différent si le président Kennedy avait annulé son voyage à Dallas ou circulé dans un véhicule blindé. Et si l'Allemagne avait gagné la Seconde Guerre mondiale, si la NASA avait reporté le départ de la navette Challenger, ce fameux matin de janvier 1986. Et si Nixon avait détruit ses enregistrements? Et si Israël avait engagé des représailles à l'encontre de l'Irak durant la guerre du Golfe? Et si Adam n'avait pas consommé le fruit défendu? Et imaginez si Jésus était revenu sur sa parole dans le jardin de Gethsémané et était retourné auprès de son Père, sans passer par la croix. Imaginez avec moi maintenant comment serait le présent et l'avenir de l'Église si mon peuple qui porte mon nom s'humiliait, priait, recherchait ma face et se détournait de ses mauvais penchants, je l'entendrai des cieux, j'effacerai ses péchés et mettrai un baume sur sa terre. J'ai récemment rencontré un groupe d'individus qui avait décidé de relever le défi à l'issue d'une période de 30 jours de prière. Je désire à présent remettre l'accent sur le petit terme conditionnel se trouvant au début de cette promesse bien connue mais si peu éprouvée. Si. Encore maintenant, alors que je rédige ces lignes, nous dit l'auteur, je suis ému par les implications stupéfiantes de cette simple conjonction. Si, le mot, sous-entend un potentiel, des options, des alternatives. L'avenir pourrait ressembler à ceci ou cela. Les résultats pourraient être ceci ou cela. Tout dépend d'actions résultant, de choix ayant précédemment représenté des pensées pesées à l'échelle de l'imagination. Au cœur de ces pensées se trouvait un « si » en suspension. Si. Quelle puissance occupe ce mot ? Son énergie est supérieure lorsqu'elle est appliquée à « ici » et « maintenant », alors que les conséquences de nos décisions sont encore entre nos mains. L'avenir se présente à nous, alors que nous sommes à la croisée de deux chemins, le choix est encore notre à cet instant précis. Lorsque le mot « si » appartient au passé, sa puissance se réduit à celle de notre imagination. Nous ne pouvons plus qu'élaborer des résultats dont l'issue serait la suivante, si seulement. Je suis persuadé qu'en écoutant ces quelques mots, votre esprit évoquera certains épisodes de votre propre vie qui auraient évolué différemment si vos choix avaient été différents. Je pense à plusieurs cas. Si mon amie n'avait pas décidé de rentrer un jour plus tôt de ses vacances en Europe, elle n'aurait pas pris le vol 103 de la Paname. Qu'une bombe terroriste fit exploser, il ne serait pas morte au-dessus de Lochbird en Écosse. Si les médecins avaient conseillé des séances de chimiothérapie et de rayons à ma belle-mère à la suite de sa mastectomie, elle n'aurait pas fait de rechute et ne serait pas décédée 14 ans plus tard. si j'avais accepté le travail sur la côte Est durant l'été 1986, je n'aurais pas été disponible pour l'offre qui m'a été faite par mon employeur actuel 8 mois plus tard, en mars 1987. Les destins se dessinent, les empires s'écroulent, les compagnies se succèdent, les découvertes se font, des carrières s'engagent, les morgues se remplissent. Le bonheur est le résultat d'un ensemble de décisions et de leurs conséquences. Une action est amorcée et des résultats interviennent. La cause entraîne l'effet. Alors, quelle est l'action réclamée par Dieu à son peuple dans 2 Chroniques 7, verset 14? C'est extrêmement simple. Il nous demande de nous humilier, de prier, de chercher sa face et de nous repentir. Quels sont les résultats escomptés? Il écoutera nos prières, pardonnera nos péchés et guérira nos plaies. Cette promesse est extraordinaire. C'est exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Cependant, tout dépend de ce grand « si » du commencement. Nous ne pouvons négliger le fait que le « si » de ce texte admet donc le fait que nous puissions ne pas prier. Nous pouvons décider de ne pas nous humilier, de ne pas chercher sa face, de ne pas nous détourner de nos mauvaises voies. Peut-être n'est-il pas nécessaire que nous soyons entendus des cieux, pardonnés ou que notre pays soit guéri. Après tout, nous ne vivons plus dans une société agraire. Notre gagne-pain ne dépend plus de la météorologie. Les sauterelles du verset 13 ne peuvent dévorer nos cartes bancaires, nos coffres-forts ou nos voitures de luxe équipées de freins ABS ou d'airbags de sécurité. Alors, pourquoi accorder de l'importance à cet avertissement et à cette promesse? Il ne semble pas nous concerner. Quel événement fâchu pourrait nous menacer si nous ne prêtions pas attention à cet avertissement? Très franchement, le désagrément le plus sérieux serait celui de demeurer dans l'état où nous sommes. Et dans quel état sommes-nous exactement? Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, 17. Cette affirmation vient du témoin véritable et non de moi. Ne vous méprenez pas. J'aime cette église. Il y a énormément de bonnes choses, solides et louables, à dire à son sujet. Cependant, nous devons également être honnêtes et admettre qu'à part cet aspect positif, nous souffrons depuis longtemps. Et pour certains, la blessure est profonde. Nous ne prenons plus le temps d'étudier la parole de Dieu pour notre propre édification. Beaucoup sont des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse, dans les moyens de séduction. Éphésiens 4, verset 14. Nombreux sont les membres servant de pâture ou se désignant eux-mêmes comme les champions d'une lumière nouvelle. Cet état de choses ébranle la confiance en l'œuvre organisée et pousse certains à manifester de la suspicion à l'égard de tout ce qui touche aux autorités et à ces institutions. Nos baptistères sont tapissés de toiles d'araignées. Nos incursions vers l'extérieur sont timides et inefficaces. Nos jeunes s'absentent des services de culte, et si nous étions plus courageux, nous reconnaîtrions que, pour les mêmes raisons, nous rongeons notre frein. Nos services semblent trop souvent dépeindre un Dieu passéiste, se rangeant parfaitement dans le coffre des modèles que nous avons élaborés. Il n'entreprend rien d'étrange, au grand soulagement de beaucoup, ne pousse pas ses serviteurs à dépasser les limites de ce qui est humainement explicable et ne réalise rien de surnaturel. C'est exactement ce que j'ai entendu dire Wintley Phipps lors de l'un de ses sermons. Dans nos églises, nous assistons à un couronnement royal en l'absence du roi. Nous organisons de beaux cortèges et de dignes processions. Lorsque les gens s'en vont, ils chuchotent les uns aux autres. C'était très beau, mais où était le roi? Oui, en effet, où était-il passé? A.W. Tozer dit « C'est une chose grave, un scandale effroyable de voir au sein du royaume les enfants de Dieu mourant de faim alors qu'ils sont assis à la table du Père. Combien d'individus intègres, travailleurs, chrétiens engagés m'ont avoué qu'ils ne venaient à l'église qu'à cause de leurs enfants. Il désire que ces derniers acquièrent des fondements spirituels solides, mais finalement, les uns et les autres ne récoltent que bien peu de choses au sein de cette expérience spirituelle collective. Regardez autour de vous. Où se trouvent les tranches des individus de 30 à 45 ans? Pourquoi ont-ils cessé de venir? Quels sont leurs besoins? Cela nous préoccupe-t-il? Où les jeunes couples avec enfants se rendent-ils après l'école du sabbat? Y a-t-il plus d'adventistes que de non-adventistes assistant aux campagnes d'évangélisation? Vos églises en organisent-elles? Chaque année, à la Pacific Press, où je travaille, nous dit Randy Maxwell, nous visionnons la cassette vidéo State of the Church, situation de l'Église, présentée par le président de la Conférence Générale. J'ai regardé celle de cette année et écouté avec fierté les rapports venant des champs mondiaux, relatifs au baptême, aux nouvelles chapelles et à la pénétration de l'Évangile au sein des territoires vierges. Lorsque le rapport a abordé l'Amérique du Nord, il a été question d'aide, de secours et de services communautaires. De grandes nouvelles et des sujets de réjouissance, certes, cependant, il n'existait pas le plus petit commentaire mentionnant la croissance de l'Église et faisant état d'une évangélisation dynamique. Il est fort à parier qu'il en est de même en Europe. Qu'entreprenons-nous? Où est passée la puissance? Notre religion n'arrive pas à susciter un changement en notre sein. Nous sommes tout aussi misérables et confus, dépourvus de paix, de joie et d'espérance en Christ que ceux que nous appelons soi-disant les perdus, se tenant à l'extérieur des portes de l'Église. Nous ressemblons à la pièce de monnaie de la parabole de Jésus, voir Luc 15. Nous sommes perdus à l'intérieur de la maison. Nous nous retrouvons au même point qu'au début, dans 2 Chroniques 7, verset 14. Alors, qu'allons-nous entreprendre? Imaginez un instant, qu'arriverait-il si nous, en tant qu'individus, cessions de jouer au petit jeu de l'Église, le temps d'entreprendre ce que nous sommes appelés à faire, c'est-à-dire prier? Que se produirait-il si nous prenions à cœur la parole de Dieu en cherchant sa face dans le but d'atteindre un réveil authentique et durable? Je crois qu'il existe une faim croissante au sein du peuple de Dieu, faim d'une foi vivante et d'un Dieu vivant. Le désir de se libérer des biens temporels et profanes croît et devient contagieux. Des petits groupes se forment, des ministères d'hommes et de femmes se constituent, des individus se lient à d'autres pour prier afin de s'encourager et de se soutenir. Un nombre croissant de chrétiens et de chrétiens adventistes sont las de querelles intestines, de controverses relatives à des points théologiques délicats et d'un manque d'amour évident se manifestant lors de différents sérieux, chacun étant désireux de préserver sa version de la vérité. Nous sommes fatigués des critiques, des erreurs d'autrui, des esprits de clocher nous isolant de tout et nous éloignant de ceux que nous sommes supposés aimer et gagner pour Christ. Pourtant, il y a également de bonnes nouvelles. La peine profonde de notre cœur peut être apaisée par la prière. Plus je lis, plus je prie, et plus je suis persuadé que l'époque la plus passionnante de notre Église se trouve devant nous. La puissance et les bénédictions célestes demeurent en attente, guettant patiemment nos requêtes et notre accueil. Le jour viendra où les montagnes de découragement, de léthargie spirituelle, de messages insipides, d'absence d'objectifs et de langueur seront jetés à la mer, à notre commandement. Voir Marc 11, verset 23. Mais ce jour ne viendra que si nous nous humilions et prions. Si c'est votre désir aujourd'hui, prions ensemble. Tendre Père, Dieu de bonté et d'amour, nous venons à tes pieds aujourd'hui te demander pardon pour notre iniquité, pardon pour nos péchés, pardon pour ce que nous faisons, Seigneur, qui nous éloigne de toi. Pardon, Seigneur, parce que trop longtemps nous sommes restés endormis au sein de l'Église. Père, lave-nous dans le sang précieux de Jésus et accorde-nous ta grâce aujourd'hui une fois de plus. Père, aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous ne savons pas prier, que nous ne savons pas comment véritablement entrer en ta présence comme tu le désires. Père, change nos cœurs et transforme-nous aujourd'hui. Place en nous, Seigneur, le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Aide-nous à conserver les regards fixés vers toi. Conduis-nous, Seigneur, par ton esprit, et que, avant longtemps, nous puissions voir un réveil sans précédent dans nos rangs. Que ceux qui se sont éloignés de toi, Seigneur, reviennent à la bergerie. Que tous les jeunes qui ont déserté nos rangs reviennent au bercail. Et que ton nom soit glorifié à travers cela. Que ta volonté se manifeste au sein de ton Église. Nous te prions, non pas que nous soyons dignes, mais au nom de ton Fils Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. C'était Change mon cœur, Seigneur, votre méditation quotidienne tous les jours, 8h30, 19h et immédiatement disponible en replay.
Tout au fond de mon cœur, oui, tu m'as délivré, Jésus, tu as